Oui, alors il ne s'agit pas en soi de protéger la Terre, parce que la Terre, elle peut nous survivre sans aucun problème. Il y a déjà eu 5 extinctions d'espèces depuis 3,5 milliards d'années, et parfois jusqu'à 90% de la biodiversité a disparu, et la vie est toujours là, renaît toujours de ses cendres, tel un phénix. Le problème aujourd'hui, c'est beaucoup plus comment maintenir la vie sur Terre telle que nous la connaissons. En fait, depuis 10 000 ans, depuis la fin de l'ère glaciaire, vous l'avez vu, l'humain s'est développé de façon exponentielle. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de l'ère glaciaire, les températures globales sur Terre ont monté de 4 degrés. Les océans sont montés de 130 mètres. Et le cycle de l'eau et un climat tempéré a permis un foisonnement de biodiversité et surtout une stabilité du climat. Ce qui a permis à l'humain de se développer et de prospérer au point aujourd'hui d'être plusieurs milliards. Le souci, c'est que cette ère géologique qui s'appelle l'Holocène, et donc qui a duré 10 000 ans, est en train de totalement changer, au point que les scientifiques ont découvert que nous avions basculé dans une nouvelle ère géologique qu'ils ont appelée l'Anthropocène. Pourquoi ? Parce que depuis les deux révolutions industrielles du 19e et du 20e siècle, l'homme a réussi à façonner cette nouvelle ère géologique. Anthropo veut dire humain. Alors comment ? Eh bien justement par une industrialisation du monde absolument globale. Et cette industrialisation, qu'elle soit extractive, les mines, qu'elle soit pétrolière, énergétique, pour aller chercher du pétrole, du gaz, des sables bitumineux, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit pétrochimique, tous les plastiques, le PVC, qu'elle soit pharmaceutique, parce qu'aujourd'hui la pharmacie occidentale utilise elle aussi des produits chimiques, qu'elle soit agroalimentaire, à travers l'usage de pesticides, à travers l'usage d'intrants, de fertilisants. Toutes ces industries ont contribué à nous faire dépasser des limites planétaires au-delà desquelles nous ne sommes pas préparés, c'est-à-dire où l'état planétaire va être tel et tellement rapidement que la plupart des individus sur Terre et la plupart des espèces, animales et végétales, n'auront pas le temps de s'adapter ou de lutter. Ces limites, elles ont été définies scientifiquement par une équipe de chercheurs au Stockholm Resilience Center en 2009 et elles ont été réactualisées en 2015. Ils en ont compté une dizaine. Il s'agit donc du changement climatique et ils ont déterminé qu'il ne fallait pas dépasser plus de 400 particules par million de CO2 dans l'atmosphère. Cette limite est déjà dépassée. Et je vous rappelle que là, depuis janvier 2017, nous avons déjà augmenté la température terrestre d'1,1 degré. Souvenez-vous, l'accord de Paris sur le climat a posé comme limite au mieux 1,5. Nous sommes déjà à 1,1. Et 10 millions de dollars de subventions toutes les minutes continuent à être attribués aux énergies fossiles. Et l'accord de Paris s'est terminé sur un accord non contraignant. Les Américains, à 19h37, ont demandé à remplacer un châle par un shoot, c'est-à-dire nous devrions plutôt que nous devons Et donc les États sont fortement engagés à le respecter, mais il n'y aura aucune juridiction internationale qui pourra les condamner s'ils ne le font pas. La deuxième limite planétaire est en lien avec l'érosion de la biodiversité. Nous avons érodé la biodiversité quasiment au seuil de 50%, et nous savons que quand nous avons dépassé ces 50% d'érosion de biodiversité, quand nous faisons disparaître des espèces à grande échelle, nous avons fait disparaître 47% des vertébrés sur Terre, alors nous rentrons dans une extinction des espèces, et en la matière dans la sixième. Nous avons aussi modifié terriblement les sols. D'une part, nous avons beaucoup trop déboisé, ce qui empêche de respecter le cycle de l'eau et le cycle du carbone, puisque, je vous le rappelle, les forêts sont de véritables pompes à carbone, maintiennent l'humidité des sols et harmonisent le cycle des pluies là où elles sont. Ce qui fait qu'on s'attend, par exemple, en Amazonie, où un tiers de l'Amazonie brésilienne a été déforestée, à ce que d'ici une vingtaine d'années, on ait des grandes périodes de sécheresse et que progressivement, la forêt d'elle-même risque de disparaître. Nous devrions, en fait, ne pas dépasser un maximum de 15% de la surface de terre libre de glace, de terre agricole. Et nous sommes bien au-delà de ça, puisque nous faisons de l'agriculture extensive dans de nombreux pays du monde. Nous avons aussi perturbé ce que nous appelons les cycles biochimiques, c'est-à-dire, par exemple, le cycle de l'azote et du phosphore. L'azote et le phosphore, c'est ce qui permet, dans le sol, de maintenir la vie en relation avec les micro-organismes, les végétaux, les champignons qui meurent, et parce qu'ils meurent, ils sont capables effectivement de redonner la vie et de nourrir les plantes. Et comme nous avons énormément pollué les sols, érodé les sols, nous sommes aujourd'hui obligés de rajouter de l'azote et du phosphore chimique aux minéraux, les phosphates, que nous allons chercher dans des mines à l'autre bout du monde. Nous les dosons mal, et nous asphyxions littéralement les sols qui sont en train donc de mourir. Et sachez que le sol, c'est 30 cm. Le sol vivant, ce n'est qu'une couche de 30 cm autour de la Terre. Une autre limite très grave que nous sommes en train d'atteindre très rapidement, c'est l'acidification de l'océan. Ça, c'est quelque chose dont vous entendez rarement parler. Mais l'océan, comme notre corps, est un pH qui permet le maintien de la vie et le développement de la vie. Et en fait, depuis 40 ans, l'océan, qui est une autre pompe à carbone de la Terre, tente désespérément de pomper le CO2 que nous avons mis en excès dans l'atmosphère. Il en a tant pompé qu'il s'est acidifié, parce que le carbone l'a acidifié. Et donc, aujourd'hui, les coquilles de certains mollusques, même de certaines huîtres, les coquilles de certains planctons n'arrivent plus à se développer parce qu'elles se dissolvent à cause de l'acidité de l'eau. Et donc toute la chaîne alimentaire de l'océan est en train d'être impactée de ce fait. Et sur les estuaires, nous l'acidifions par les rejets de nitrates qui viennent de nos champs cultivés de façon intensive et extensive. Une autre limite est en lien avec l'eau douce. Vous savez que l'eau douce, l'eau potable, ne représente qu'un petit pourcent de l'eau sur Terre. Alors en attendant que nous trouvions des solutions astronomiquement chères pour désaliniser le mer, il serait bon de nous soucier de préserver ce petit 1%. Et le problème aujourd'hui, c'est que la quantité d'eau, c'est-à-dire de mètres cubes par an de consommation par habitant qui devrait être, je dirais, alloué, est totalement dépassé, en particulier dans les pays occidentaux. Pour vous donner un exemple, en Amérique du Nord, on consomme 250 litres d'eau par jour. En France, on en consomme environ 150 litres par jour. Et en Afrique subsaharienne, on en consomme 10 litres par jour. Et de plus, les sources d'eau potable, telles certains lacs, certaines nappes phréatiques, sont soit exploitées de plus en plus par des multinationales pour les mettre en bouteille, pour faire du coca, du fanta, des sodas. Ils vont par exemple au Pérou chercher l'eau dans des lacs qui jusqu'à présent étaient un accès direct à l'eau potable pour les populations en amont et qui aujourd'hui n'ont plus rien au robinet. Ou alors, Areva, par exemple, au Niger, va exploiter les mines d'uranium en plein désert, et les populations locales sont d'une part contaminées par les résidus toxiques nucléaires, nucléaires liés à l'uranium, et l'eau utilisée pour extraire l'uranium du sol est pompée dans des nappes phréatiques d'eau fossile. C'est de l'eau qui a des millions et des millions d'années, et ce sont des nappes qui ne peuvent pas se régénérer. Et donc les populations n'ont plus non plus accès à cette eau directement. Et les puits s'assèchent. Alors il y a une limite qu'on avait dépassée et qu'on a réussi, comme quoi, quand on veut, à rétablir, c'est celle de l'ozone. Vous en avez longtemps entendu parler, pendant les années 80-90, qui était en lien avec une concentration donc, de composants chimiques volatiles dans l'atmosphère, qui sont devenus interdits par un traité international. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas encore utilisés, mais en tout cas, bien moins. Et donc, on a pu, par moment, résorber ce trou. Et ce trou, en fait, empêche que nous puissions être protégés des UV, du soleil, ce qui engendre pour les régions qui sont encore parfois sous ce trou qui se ferme et se rouvre régulièrement, directement exposées à des UV. Par exemple, en Australie, les populations ont une augmentation de 13% de cancer de la peau à cause de ça. La pollution chimique, vous vous en doutez, est une limite, forcément. Tous les rejets donc, de pesticides, de produits chimiques industriels qui migrent vers les sols, qui migrent vers l'eau et qui s'accumulent donc tout au long de la chaîne alimentaire. Et c'est une limite, là aussi, qu'il faut surveiller parce que nous arrivons à des points critiques à l'heure actuelle. Voilà, et puis il existe donc deux autres limites qui ont été définies, qui sont en lien avec tous les aérosols atmosphériques actuels liés à la combustion du carbone, liés aux feux de forêt. Vous avez vu ce qui se passe, par exemple, en Indonésie, régulièrement, pendant 3 mois de l'année, des forêts sont brûlées pour pouvoir planter, par exemple, des palmiers à huile en monoculture. Et ces feux ne savent pas s'arrêter. Et je me souviens avoir été en Asie à une époque où on ne voyait pas à 10 mètres, et j'étais pourtant à 3000 km de l'Indonésie. C'est-à-dire que les populations locales vivent directement dans un nuage permanent de poussière et d'une toxicité incroyable. Tout ça pour effectivement pouvoir avoir de l'huile de palme moins chère que les huiles traditionnelles dans tous les produits alimentaires industriels que vous retrouvez dans les supermarchés. Sans compter effectivement que quand on... Alors c'est là où vous voyez qu'il y a des boucles de rétroaction. Vous voyez que là vous êtes face à une pollution qui est atmosphérique, face à un déboisement qui est massif. Et parce que ce déboisement est massif, il menace les habitats et des populations humaines et des populations animales, et donc il a un impact directement sur l'érosion de la biodiversité. Et c'est ce que ces chercheurs ont voulu démontrer. Et si je prends le temps de vous expliquer ça, c'est aussi ce que je fais dans la première partie du livre, qui est un état des lieux planétaires de toutes ces pollutions-là, c'est de démontrer que il y a un effet cascade face à toutes ces atteintes à la nature et aux droits humains. Il y a un effet cascade parce que chacune de ces limites va effectivement engendrer une conséquence sur une autre. Et donc il faut pouvoir répondre finalement à tous ces problèmes en même temps. Et on voit qu'il existe aujourd'hui plus de 200 traités internationaux de protection de l'environnement, et malgré tout, rien ne se passe. Et c'est vrai donc que depuis quelques années, je réfléchis avec d'autres et dans une lignée de juristes à une solution, et à une solution juridique. Alors, vous avez dû voir sur l'annonce que l'une des solutions que nous proposons, c'est la reconnaissance du crime d'écocide. En fait, ce terme, que vous ne connaissez pas bien, parce qu'il n'existait pas vraiment dans la langue française, est un terme qui existe depuis une cinquantaine d'années, et qui a été utilisé dès 1966 pour qualifier l'usage de l'agent orange, qui est une dioxine que les Américains ont utilisée pendant la guerre du Vietnam. Ils ont balancé par avion des quantités effroyable de dioxine, de défoliant, pour faire tomber les feuilles des arbres au Cambodge, au Laos et dans la moitié du pays au Vietnam, de façon à pouvoir démasquer les combattants. Et ils ont durablement pollué les sols, pollué l'eau, les populations bien évidemment sont tombées malades, civiles, et aujourd'hui encore, des enfants naissent avec des malformations absolument terribles. Et donc, à l'ouverture de la conférence de Stockholm, le premier sommet de la Terre en 1972, c'est le premier ministre suédois qui a qualifié l'action des États-Unis comme un crime d'écocide. Et non pas comme un crime de guerre ou comme un crime contre l'humanité. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui a émergé, je dirais, dans la conscience des juristes, c'était d'imaginer que l'on puisse reconnaître un crime pour la valeur intrinsèque de la nature. Et reconnaître un crime aussi quand une action risque d'avoir un impact sur les générations à venir. Et là, ça pose deux notions tout à fait révolutionnaires dans notre conscience occidentale. La première, c'est effectivement le fait de doter la nature de droits. De dire: il faut protéger les conditions de la vie sur Terre, et donc il faut protéger les écosystèmes, les grands écosystèmes, protéger les communs planétaires, que sont l'océan, les pôles, les poumons planétaires, que sont les forêts, les grands fleuves, les espèces migratrices, les pôles génétiques. Protéger aussi les cycles biogéochimiques, et considérer que il faut pouvoir défendre leurs intérêts en justice. Alors bien évidemment, quand cela a été proposé dans la rédaction du statut de la Cour pénale internationale, qui a mis des dizaines d'années à être écrit, dans les années 90, plusieurs États ont demandé à ce qu'on reconnaisse par exemple les crimes contre l'environnement en temps de paix dans le statut de la Cour pénale internationale. Et certains même disaient: il faut le faire de façon aussi à se protéger de la prédation des multinationales, des grandes entreprises, et il faut le faire pour replacer finalement certaines valeurs comme l'humain, comme la vie, au-dessus du profit. Et donc un article a été rédigé à cette époque. Et puis, un soir, le président de la commission qui était en charge de poser cet article dans le statut a été approché par quatre grandes puissances, par la France, par l'Angleterre, par les Pays-Bas et par les États-Unis, et qui ont fait une pression monumentale. Et donc l'article a subitement disparu en une nuit du statut. Et donc je suis dans une lignée de juristes qui, depuis maintenant 1996, tentons, la date où cet article a disparu, tentons de faire revivre cette idée-là et même d'aller un peu plus loin. Pourquoi ? parce que on ne peut pas poser simplement dans le droit pénal la notion de crime d'écocide si dans le droit public on ne reconnaît pas les droits de la nature, les droits des écosystèmes à exister, à se maintenir et à se développer. Et cette idée-là, ce sont les peuples autochtones qui l'ont amené sur la table des négociations. Très tôt, les peuples autochtones de tous les pays, pas que d'Amérique du Sud, puisque l'un des premiers textes importants qui a été rédigé en ce sens, c'était la Charte africaine des droits de l'homme. Et quand ils ont commencé à pouvoir négocier aux Nations Unies la protection de leurs propres droits, quand ils ont pu ensuite obtenir qu'il y ait une déclaration des droits des peuples autochtones qui puisse être reconnue par les Nations Unies, ça c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en 2007, ils ont posé et ils ont influencé la pensée d'un mouvement qui s'appelle Earth Law, le mouvement du droit de la Terre, qui est directement inspiré de ce qu'on appelait l'écologie intégrale, et qui a comme principe de base, qui est que pour faire évoluer le droit et les consciences, il faut que nous reconnaissions notre état d'interdépendance. Et pas notre état d'interdépendance simplement entre humains, mais d'interdépendance avec tout ce qui vit sur Terre. Alors si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà sensible à cela. Mais il faut comprendre que c'est une révolution dans la pensée occidentale. En fait, si vous voulez, le droit international a été terriblement influencé par la culture occidentale. Le droit international s'est construit au départ, il y a 500 ans, quand de grandes puissances comme l'Angleterre, comme la France, comme l'Espagne, comme le Portugal, ont décidé d'aller conquérir le monde. Et ils sont arrivés, effectivement, Christophe Colomb, 1492, sur les côtes des Amériques. Et là, les juristes et les philosophes de l'époque, en particulier l'école de Salamanque en Espagne, s'est dit, mais tiens, il y a d'autres humains. Alors ils se sont posé la question, est-ce que ce sont bien des humains? Est-ce qu'ils sont comme nous? Et les philosophes ont quasiment tous opté pour l'idée que oui, nous étions tous des humains et que donc nous avions le droit d'être égaux, et ont posé la notion de la dignité de l'homme comme la valeur pivot du droit depuis 500 ans. Sauf que dès le début, les puissants, le pape, Charles Quint, qui eux avaient demandé soit à exterminer les Indiens, soit à les mettre en esclavage. Il faut savoir que en 1516, donc vous voyez, ça faisait quoi, 20 ans plus tard, après le premier pas posé en Amérique, on était passé de 1 100 000 Indiens à 16 000. C'est un véritable massacre. Et en même temps, à notre contact, beaucoup sont aussi tombés malades et sont morts de maladies qu'ils ne connaissaient pas et dont ils n'avaient pas effectivement d'anticorps. Ceux qui sont restés ont été mis en esclavage. Et comme ils n'étaient plus assez nombreux pour cultiver les terres, alors on est allé les chercher ailleurs. Et là a démarré 400 ans d'esclavage avec le triangle des esclaves entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Et eux, donc, ces puissants, ne voulaient pas entendre parler du respect de la dignité humaine. Ce qu'ils voulaient surtout, c'est que le droit se construise autour de la régulation des échanges commerciaux. Et on est 500 ans plus tard et on en est toujours là. On en est toujours là, parce que si vous vous intéressez un petit peu à l'évolution du droit, et en particulier du droit de l'environnement, on se rend compte qu'en ce moment, il ne fait que régresser. On se rend compte que les États ont de moins en moins de pouvoir et que les gouvernements ont accepté, effectivement, de se mettre à la botte des multinationales qui, à l'heure actuelle, négocient autant qu'elles le peuvent une régression du droit partout où elles veulent s'implanter. Alors, elles le font de plusieurs manières. Vous avez entendu parler effectivement des traités commerciaux de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et l'Europe. Il y en a d'autres, bien évidemment, avec les pays d'Amérique du Sud, avec le Pacifique, avec l'Afrique. Mais pas seulement. Ils essaient de négocier aussi des traités bilatéraux directement avec des États. Et par exemple, en Afrique, ils disent aux États africains, laissez-nous venir, laissez-nous avoir accès à vos terres et à vos ressources et à vos sous-sols. Nous allons générer de l'emploi. Il faut voir dans quelles conditions. Nous allons vous reverser une partie de nos bénéfices. Il faut voir combien. Et si vous n'êtes pas content et que vous décidez, par exemple, d'adopter des politiques de préférence nationale ou de nous demander de partir, alors nous vous assignons en justice devant la Cour de justice internationale. Et là, on se rend compte que, effectivement, il y a une juridiction internationale qui est en capacité de gérer des conflits entre les États et les multinationales. Mais en ce qui concerne les citoyens, comment faites-vous pour vous attaquer à une multinationale? Comment faites-vous pour vous attaquer à un chef d'État qui tolère, par exemple, ce type de pratique et qui va faire que des millions de gens dans un pays n'auront peut-être plus accès à l'eau, auront été déplacés parce qu'il y aura eu un accaparement de terres massif? C'est ce que l'on voit aujourd'hui avec les plaintes qui essayent d'être déposées, par exemple, contre Bolloré, au Cambodge, en Afrique. J'ai calculé qu'au Cambodge, en ce moment, il y a une personne sur 15 qui a été déplacée de force suite à des contrats passés entre le gouvernement cambodgien et des entreprises. Une personne sur 15. Ils n'ont pas de recours. Ils n'ont aucun recours. Donc c'est vraiment très important d'essayer de trouver une stratégie pour que les peuples puissent effectivement demander justice. Et donc la stratégie que nous avons adoptée s'appuie de fait sur le mode de pensée autochtone en termes de base philosophique, c'est-à-dire comprendre intimement qu'il n'y a pas nous les humains et de l'autre côté l'environnement, parce que l'environnement c'est quoi? C'est ce qui nous entoure, ce qui veut dire qu'on s'en extrait. Et donc moi ça me dérange beaucoup qu'on en soit encore aujourd'hui à parler de droit de l'environnement, d'un ministre de l'environnement, d'un ministère, d'une commission environnement. Même dans le Parti Vert français, on continue à utiliser le terme environnement. Et là, on échappe à quelque chose de fondamental. On se place de façon subtile, inconsciente, hors sol. On oublie intimement qu'on est un maillon du vivant et qu'on a besoin du reste du vivant pour survivre. On oublie finalement que nous sommes la nature. Nous sommes un des enfants de la Terre parmi tous les enfants de la Terre. Et les Indiens le disent très bien. Ils disent, les animaux, les plantes, les arbres sont nos frères et nos sœurs. Et si nous sommes sur un territoire, c'est parce que nous appartenons à ce territoire. Pas parce que ce territoire nous appartient. Et la pensée occidentale qui s'est forgée sur les pensées religieuses au départ, judéo-chrétiennes, le verset 1:26 de la Genèse dit quoi? Il dit, homme, tu domineras sur la terre, sur tout ce qui vit, sur tout ce qui rampe, sur tout ce qui vole. Tu auras toutes les graines de la terre à ta disposition. Et petit à petit, ça s'est inscrit dans notre ADN. Et les philosophes des Lumières qui ont tenté voyant l'esclavage être mis en place, etc., justement de militer pour la reconnaissance des droits de l'homme, ont oublié, mais on peut les comprendre, on n'en était pas où on en est aujourd'hui, ont oublié cette notion-là et ont souri face à la pensée autochtone en disant finalement, ils sont heureux, ils sont libres, ce sont de bons sauvages. Voilà ce que nous entendions à l'époque. Mais quelque part, ils sous-entendaient, ils sont stupides, ils n'ont rien compris. La seule chose qui pourra nous sauver, c'est le progrès, c'est la technologie. Le propre de l'homme est d'être un technicien, un inventeur. Le propre de l'homme est d'avoir une vraie culture qui lui donne une civilisation. Mais même là, scientifiquement, ils se sont trompés. Parce que les animaux nous montrent aujourd'hui qu'ils ont des techniques et qu'ils sont capables d'adapter leurs techniques en fonction d'une situation. Même les animaux ont un langage. Les abeilles ont un langage symbolique. Les plantes ont un langage olfactif. Les arbres communiquent par le mycélium. Vous le savez, on s'est rendu compte que quand il y avait dans une forêt d'arbres un arbre en difficulté, tous les arbres étaient au courant par le mycélium qui est sous terre et lui envoie des nutriments pour le renforcer. On sait aujourd'hui que des plantes sentent la souffrance d'animaux à côté d'eux et ont des décharges électriques significatives quand on les étudie. On a encore énormément de choses à apprendre, mais on a à l'apprendre en regardant la vie, pas en inventant constamment des procédés qui sont hors sol. On a à apprendre de notre verticalité à ne pas regarder que vers le haut et à vouloir constamment se transcender, s'élever, mais aussi à s'enraciner dans le sol, comme un arbre. Un arbre déploie son feuillage et ses branches vers le ciel, mais il s'enracine pour tenir au vent. Et moi, il me semble qu'aujourd'hui, l'humanité est déracinée. Elle a oublié ce cordon ombilical à la terre. Elle a oublié qu'elle a besoin d'avoir les pieds dans la terre et d'être en relation avec le vivant. Et elle se met véritablement en danger. Alors très concrètement, ce qui est proposé aujourd'hui, depuis donc 2013, où nous avons lancé une initiative citoyenne européenne dont vous avez peut-être entendu parler, mais c'était une des toutes premières. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une initiative citoyenne européenne. C'est un processus de démocratie directe et participative qui a été mis en place par le traité de Lisbonne et qui permet normalement aux citoyens d'interpeller directement les autorités européennes avec un projet de loi, un projet de directive. Alors c'est très cadré, c'est beaucoup trop cadré. Très concrètement, il faut 1 million de signatures dans toute l'Europe, avec un minimum de 7 pays représentés qui ont chacun atteint un certain quota. Par exemple, la France, c'est 55 000 signatures. Ensuite, certains pays, comme la France, demandent à ce qu'on donne son identité, c'est-à-dire son numéro d'identité ou de passeport, sur un serveur en ligne pour pouvoir signer cette votation citoyenne. Et donc, quand nous l'avons fait en 2013, nous nous sommes rendus compte, parce que nous le voyons sur le serveur, on avait un certain nombre d'individus qui faisaient la démarche d'aller sur le serveur pour remplir le document et qui abandonnaient en cours de route. 4 personnes sur 5 ne sont pas allées jusqu'au bout du vote par peur d'être fichées. Pour l'anecdote, il n'y a que les colibris, à l'appel de Pierre Rabhi, qui ont osé aller jusqu'au bout de la démarche, à 77%. C'était assez étonnant. Et ensuite, la commission a l'obligation de donner une réponse argumentée. Point. Si l'on obtient le nombre de signatures. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un outil de démocratie. Voilà. de façade. Et donc, ça fait des années que nous militons pour que cet outil soit un véritable outil efficace. Mais nous avions donc en 2013 lancé l'idée donc de reconnaissance du crime d'écocide dans le droit européen. Ça a fait son chemin, malgré tout. La preuve, c'est que même dans la campagne présidentielle française, j'ai entendu des candidats reprendre dans leur programme soit la reconnaissance du crime d'écocide, soit la constitutionnalisation des communs planétaires, tels que l'eau et l'air, et d'autres qui ne sont plus en lice, qui ont aussi tenté d'aborder ces sujets-là. Et donc on se rend compte qu'il commence à y avoir une conscience de cette nécessité de cadrer finalement l'activité industrielle à travers le droit pénal qui permettrait finalement à la justice internationale, supranationale, c'est-à-dire au-dessus des intérêts des États, de pouvoir être saisie lorsque un dirigeant de multinationale, un chef d'État, une banque, finance des projets qui, de façon très claire, amènent à dépasser ces fameuses limites planétaires telles qu'elles ont été définies par les scientifiques. Ces limites planétaires, elles sont aujourd'hui reconnues par les Nations Unies. Donc ce que nous essayons de faire, c'est finalement que ces limites deviennent des normes et qu'elle pose le cadre de l'activité industrielle humaine qui permette effectivement de qualifier ou pas le crime d'écocide. Parallèlement, nous menons une action pour la reconnaissance des droits de la nature. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que quelqu'un a entendu parler dans les 15 derniers jours de la reconnaissance de la personnalité juridique de certains fleuves dans le monde? Oui, le Gange en Inde, donc la cour de l'Uttarakhand, c'est-à-dire un état himalayen indien, vient de reconnaître la personnalité juridique du Gange et de son affluent, la Yamuna, et a donc posé le fait que le Gange, à partir de maintenant, serait reconnu comme une entité vivante, comme une personne. Et que toute personne, citoyen, collectivité, industrie, qui serait attrapée en train de la souiller, il sera considéré qu'un préjudice, tel qu'un préjudice sur un corps humain, aura été perpétré. On se dit, mais c'est incroyable. Un fleuve, une personne. 5 jours avant, c'est en Nouvelle-Zélande que les Maoris, après 140 ans de négociations avec le gouvernement néo-zélandais, a réussi à obtenir d'entériner un accord qu'ils avaient signé en 2012 par le Parlement et reconnaître leur rivière comme une rivière, comme une personne. Alors là, c'était subtil parce que leur argument, c'était « Cette rivière est notre ancêtre. » Notre adage dit nous sommes la rivière est nous. Et donc, si on s'attaque à la rivière, on s'attaque à nous. Et ils ont obtenu donc, que le gouvernement néo-zélandais, qui est un gouvernement occidental, reconnaisse une personnalité juridique à cette rivière, Whanganui, et ils ont donné plus de 50 millions de dollars à la communauté maori pour la restaurer et pour la défendre en justice. La Nouvelle-Zélande l'a présentée comme une première mondiale. C'est pas vrai. En fait, les premiers pays qui ont effectivement reconnu des droits à la nature sont, depuis 2008, l'Équateur, qui a inscrit dans sa constitution les droits de la nature à exister, à se maintenir et à se développer, et le droit donné aux citoyens de la représenter en justice. En 2009, c'est la Bolivie qui les a reconnus dans une loi qui s'appelle la loi des droits de la terre-mère, qui est adossée à la Constitution. Des procès ont été gagnés, par exemple en Équateur. Une rivière qui était menacée par un projet de route a été représentée en justice et la Cour a reconnu qu'il y avait une violation des droits constitutionnels de la rivière à exister. Et aux États-Unis, parce que les États-Unis sont le pays de toutes les surprises. Il existe quasiment une dizaine de comtés ou de villes qui ont reconnu les droits à la nature dans leur législation locale. Et là aussi, des sources, des rivières ont été défendues en justice et ont gagné contre des projets de fracturation hydraulique, des projets de gaz de schiste. La source Cristal, par exemple, en Pennsylvanie. Et en janvier 2016, c'est la ville de Mexico, qui est considérée comme un État au Mexique, qui est un État fédéral, et elle est tellement énorme que la ville elle-même est un État. Et donc, dans sa constitution, a été reconnue en janvier des droits à la nature. Donc on se rend compte que cette idée qui nous paraît en soi très romantique est en train d'émerger tout doucement, un petit peu partout. Et ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est effectivement conscientiser un maximum de personnes à cette possibilité juridique qui en soi n'est pas si incroyable. Parce que finalement, une entreprise, une association en droit, ce sont des personnes morales. Elles sont considérées comme des personnes. Elles ont un statut juridique et elles peuvent être défendues en justice. Et ce sont des entités qui sont plus ou moins virtuelles, qui sont plus ou moins pérennes. Et quand on parle de la vie sur Terre, s'il y a bien une chose qui devrait être préservée pour ce qu'elle nous offre, et dans la durée, et dans le réel, c'est bien cela. Donc ça veut dire qu'il faut sortir d'une vision anthropocentrée du droit qui a été imposée par l'Occident au reste du monde et réécouter peut-être la sagesse de peuples millénaires qui n'ont jamais abîmé la nature autour d'eux, qui ont toujours su vivre en harmonie avec elle, qui ont même su l'enrichir. Vous savez, les Kalliapo, vous connaissez le chef Raoni avec son plateau labial et ses grandes plumes. Je l'accompagne régulièrement depuis 2010 quand il vient en Europe pour donner des conférences, pour aller voir les Nations Unies. Les Kalliapo, quand ils quittent leur village pour aller en forêt, chasser, ils partent toujours avec des graines dans les poches. Et au gré de leur marche, ils plantent. Finalement, comme font les oiseaux et comme font les singes, qui circulent d'arbre en arbre et qui recrachent des graines ou par leur déjection, sèment un petit peu partout dans la forêt. Et c'est cette relation-là que nous devons retrouver, cette relation de gardien, où bien évidemment, nous bénéficions de ce que la nature nous offre, mais nous l'embellissons, nous l'enrichissons de notre présence. Et il s'agit d'arrêter de confronter l'humanité à la nature, ou même d'avoir un discours que j'entends parfois de dire « finalement la solution c'est qu'il n'y ait plus d'humains ». J'entends ça beaucoup. Vous ne réglez pas le problème c'est la surpopulation. Sauf qu'on sait que c'est faux. On sait que des ressources, il y en a assez pour tout le monde. Mais pour arriver à les distribuer de façon équitable, il faut remettre au centre de nos valeurs, et donc au centre du droit, l'écosystème Terre et l'humanité dans sa dimension transgénérationnelle. C'est-à-dire reconnaître des devoirs à l'humanité que nous sommes ici maintenant, vis-à-vis de l'humanité de demain. Et ça n'existe pas dans le droit. Ça n'existe pas parce que, alors là, pour le coup, donner une personnalité juridique à quelqu'un qui n'est pas né, c'est difficile. Donc il y a une subtilité qui est de reconnaître cet aspect temporel de l'humanité et donc de ne plus parler des droits de l'homme, qui est une vision, une fois de plus, très anthropocentrée et finalement très individualisée, à une vision globale, hors frontières, la vision que l'on a finalement quand on est dans l'espace et qu'on regarde la Terre. On ne voit pas de frontières. Et face aux menaces globales qui nous touchent aujourd'hui, je crois sincèrement que c'est en se reconnectant à cette notion universelle de nous-mêmes et de notre relation au vivant, que nous trouverons les moyens d'être solidaires et de trouver des solutions ensemble. Mais ce n'est sûrement pas en construisant des murs, sûrement pas par le repli sur soi, que nous allons pouvoir affronter la réalité de demain, qui est au minimum que 250 millions de personnes dans le monde d'ici 2050 vont devoir quitter leur maison, et que si nous ne faisons rien pour arrêter la trajectoire d'augmentation des températures, il a été estimé qu'il était possible que nous arrivions à une situation où 1 milliard de personnes, une personne sur 7 sur Terre devra quitter son territoire. Il y a à l'heure actuelle 15 mégapoles de plus de 20 millions de personnes qui sont menacées par les eaux, 10 à 20 000 îles qui vont être submergées d'ici 2080. Tous les deltas que nous connaissons, dont les nôtres, la Vendée, la Camargue, le monde va se redessiner. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début. Plus 4 degrés, une augmentation des mers de 130 mètres. Et là, on vous annonce 1 mètre ou 2. Mais si vous vous renseignez un petit peu, si vous écoutez quelqu'un comme Valérie Delmotte-Masson ou Jean Jouzel sur les dernières études qu'ils ont faites, on sait que c'est faux. On sait que les mers vont monter de façon exponentielle. Donc ce n'est pas avec une partie entière de la population mondiale qui va se déplacer que nous allons régler le problème en nous enfermant. En aucun cas. Tout ce que nous allons récolter dans cette attitude de confrontation, c'est plus de guerre, plus de conflits. Et donc le fond vraiment de mon engagement, qui n'est pas un combat, parce que si on est dans le combat, on est encore dans une énergie de confrontation et de guerre, mais mon engagement, c'est vraiment d'essayer d'impulser un changement de conscience qui nous amène à le refléter dans le droit, parce que le droit n'est qu'un reflet de notre état de conscience. Le droit n'est qu'un reflet des valeurs que nous portons. Si nous changeons de perspective, si nous ouvrons nos cadres de référence, si nous arrivons à recomprendre que nous sommes citoyens de la Terre et enfants de la Terre, alors peut-être nous arriverons à faire bouger les lignes. Et on en parlera peut-être en débat, mais sachez que des choses avancent sérieusement au sein de la Cour pénale internationale en ce sens, et que d'autres projets sont aussi en préparation au sein des Nations Unies. Je fais d'ailleurs partie d'un comité d'experts bénévoles pour un groupe de travail aux Nations Unies qui s'appelle « Vivre en harmonie avec la nature » et qui a été reconnu par l'Assemblée générale des Nations Unies pour pouvoir influencer et cadrer finalement tous les nouveaux textes qui seraient signés dans le cadre des Nations Unies. En disant, nous devons passer par ce prisme-là, qui n'est pas qu'un prisme développement durable, qui a été le discours pendant ces 40 dernières années, mais la notion de vivre en harmonie avec la nature et de finalement suivre les conseils des juristes de la Terre. Voilà, mais je vais laisser un petit peu peut-être la place aux questions, au débat, si vous avez envie d'en savoir plus sur ces avancées juridiques, parce que je sais que le droit, ça peut être fatigant. Je vous remercie beaucoup. Merci.